Bonjour, bonjour, Yves au micro-micro pour une nouvelle émission de 24 notes secondes qui ne dérogera pas à la tradition et qui par conséquent vous rappellera ou vous apprendra si vous êtes nouveau venu, bienvenue, que 24 notes secondes est une émission consacrée à la musique de film, à cet art si particulier qui consiste à illustrer de manière sonore ou musicale les petites images qui bougent sur tous les écrans imaginables. Et ce jour, dans 24 notes secondes, pardonnez-moi, eh bien nous allons évoquer rapidement, hélas, la carrière protéiforme et longue de Georges Delerue, certainement l'un des plus grands compositeurs français de musique de film. Georges Delerue qui présente la particularité assez rare, avec notre cher Alexandre Desplat, la particularité assez rare d'avoir fait une carrière française très très prestigieuse, mais d'avoir aussi fait une carrière américaine qui ne l'était pas moins. Alors, il n'y a pas vraiment de thématique autour de Georges Delerue, qui fut, on le sait, le collaborateur favori de François Truffaut pour un certain nombre de films. On va juste picorer dans sa très abondante filmographie, disons un film par décennie. Et on va commencer avec un film tourné en 1959 par Alain Resnais. C'était d'ailleurs le premier long-métrage d'Alain Resnais, qui s'était déjà largement illustré dans des courts-métrages qui sont autant désormais de classiques, et notamment par un court-métrage consacré au camp d'extermination Nuit et brouillard, qui reste encore très très connu et très apprécié. Et d'une certaine manière, quoique l'idée paraisse un peu morbide, eh bien, les producteurs, après avoir vu Nuit et brouillard, avaient demandé à Alain Resnais de réaliser un film sur Hiroshima, autre catastrophe de la Seconde Guerre mondiale. Alors, un film qui ne soit pas un court-métrage et encore moins un documentaire. Mais très rapidement, Alain Resnais se rendit compte qu'effectivement, s'il se tenait à une idée proche de celle de Nuit et brouillard, eh bien, il ferait à peu près le même film sur une autre catastrophe. Et du coup, il se rapprocha de Marguerite Duras, qui à l'époque n'était pas encore la romancière multiprimée et ultra célèbre du Lamant, et d'autres livres, films, pièces de théâtre, etc. Et donc, Alain Resnais et Marguerite Duras écrivirent ce qui deviendra Hiroshima, mon amour, un film qui ne raconte pas directement l'explosion de la bombe atomique à Hiroshima, mais qui raconte l'histoire de deux personnages qu'il évoque. Alors, le procédé pourra paraître peut-être un peu fastidieux, ma foi, ce n'était pas du tout le cas, puisque aussi bien la qualité du scénario et des dialogues de Marguerite Duras que l'interprétation de elle et de lui, ils n'ont pas de nom dans le film, à savoir elle, Emmanuel Riva, et lui, Eiji Okada, un acteur japonais, vous l'aurez deviné, eh bien, ma foi, fier que presque immédiatement, Hiroshima, mon amour, devint un grand classique du cinéma français, et le reste encore bien des années plus tard. La musique de ce film, vous avez deviné, elle est signée de Georges Delerue, mais elle n'est pas signée que de Georges Delerue, puisqu'on y entend aussi de la musique japonaise, ce qui paraît quand même bienvenu. Et puis aussi, une partie de la partition avait été composée par Giovanni Fusco, plus connu pour être, lui, le compositeur attitré de Michelangelo Antonioni. C'est néanmoins, évidemment, un extrait de la partie, j'allais dire délurienne, ce serait peut-être pas joli, de la partie composée par Georges Delerue de cette musique que nous allons écouter. Hiroshima, mon amour, Alain Resnais, 1959, dans 24 notes secondes.
Thank you.
un air de valse bien dans la manière de Georges Delerue, même si un peu incongru dans le film, à vrai dire. Le film, c'est Hiroshima, mon amour, un film d'Alain Resnais, donc une musique de Georges Delerue, auquel nous consacrons cette émission de 24 notes secondes. Je vous ai dit un film par décennie, alors on va passer de 1959 à 1960. Je vous l'accorde, mais on va rester curieusement proche d'Alain Resnais, puisque une aussi longue absence, c'est le film duquel nous allons écouter un extrait de la bande originale, et bien une aussi longue absence bénéficiait aussi de dialogues signés de Marguerite Duras, et son réalisateur Henri Colpi avait été et sera d'ailleurs un collaborateur d'Alain Resnais, puisque Henri Colpi, avant de tourner une aussi longue absence, qui était son premier long métrage en tant que réalisateur, Henri Colpi avait été chef monteur, notamment de Nuit et brouillard déjà cité, notamment d'Hiroshima mon amour déjà évoqué, mais il le sera aussi de L'année dernière à Marienbad, un film de Alain Resnais tourné en 1961, adapté cette fois d'Alain Robbe-Grillet, signalant aussi, excusez du peu, que Henri Colpi collabora en tant que monteur avec rien moins que Charlie Chaplin pour Un roi à New York, tourné en 1957. Quant à l'histoire d'une aussi longue absence, eh bien c'est celle d'Alida Valli, alias Thérèse Langlois, qui tient un petit café dans lequel vient souvent un clochard incarné par George Wilson, un clochard dans lequel elle croit reconnaître son mari déporté. On est encore en 1960, et bien dans le souvenir encore vif, des horreurs de la Seconde Guerre mondiale, et à sa manière, bien différente de celle d'Hiroshima, mon amour, une aussi longue absence les évoque, ces horreurs. Et la musique, elle est bien évidemment signée de Georges Delerue, mais en fait, on va écouter la chanson du film, interprétée par la regrettée Cora Vauquer, une chanson que vous allez forcément, je pense, reconnaître dans 24 notes secondes.
Petites notes de musique ont plié boutique au creux du souvenir. C'en est fini de leur tapage, elles tournent la page et vont s'endormir. Mais un jour, sans crier gare, elles vous reviennent en mémoire. Toi, tu voulais oublier un petit air galvaudé dans les rues de l'été. Toi, tu n'oublieras jamais une rue, un été, une fille qui fredonnait. La 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 la, je vous aime, chantait la rengaine. La la, mon amour, des paroles sans rien de sublime, pourvu que la rime amène toujours une romance de vacances qui lancinante vous relance. Vrai, elle était si jolie, si fraîche épanouie, et tu ne l'as pas cueillie. Vrai, pour son premier frisson, elle t'offrait une chanson à reprendre à l'unisson. La 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 la, tout rêve rime avec sa chèvre, le tien ne rime à rien. Fini avant qu'il commence le temps d'une danse, l'espace d'un refrain. La 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 la. Thank you. Trois petites notes de musique qui vous font la nique du fond des souvenirs. Lève un cruel rideau de scène sur mille et une peines qui ne veulent pas mourir.
Voilà, trois petites notes de musique par Cora Vauquer, une chanson qui dépassa largement, dont le succès dépassa largement celui du film Une aussi longue absence, un film d'Henri Colpi qui connut pourtant un gros succès, puisque en 1961, le film obtint le Grand Prix du Festival de Cannes et même le prix Louis Delluc, qui est toujours maintenant un des prix les plus prestigieux du cinéma français. Hélas, les films suivants d'Henri Colpi en tant que réalisateur ne connurent pas le même succès, desquels on retiendra seul Heureux qui comme Ulysse, et simplement parce que c'était Heureux qui comme Ulysse, le dernier rôle de Fernandel, et oui, de Fernandel au cinéma. Et on va poursuivre l'évocation de la carrière de Georges Delerue, alors là pour le coup en sautant les années, puisqu'on va écouter un extrait de la bande originale d'un film tourné en 1976 par Alain Corneau. Alain Corneau, un grand réalisateur notamment qui a beaucoup renouvelé le film policier à la française, et Police Python 357, qui est le titre un peu mystérieux, j'y reviens, cryptique, de ce film, et bien fait partie des grands, grands films d'Alain Corneau. Il faut dire qu'il avait une distribution à la hauteur, puisque dans les rôles principaux, il y avait rien moins qu'Yves Montand, François Perrier et Simone Signoret, quand même quelque chose, avec Stefania Sandrelli aussi dans un rôle moins important mais tout aussi marquant. Et Police Python 357, eh bien c'est le nom d'un Colt, d'un revolver, je pense que c'est un revolver, je ne suis pas spécialiste de la chose, un Colt qui fascine Yves Montand, alias l'inspecteur Ferraud, qui par ailleurs mène une vie très très calme dans une petite ville de province qui n'est autre qu'Orléans, la ville natale d'Alain Corneau, où le film d'ailleurs a été entièrement tourné. On se doute que cette petite vie très très calme va rapidement être bouleversée, puisque son chef, François Perrier, va assassiner une jeune fille, en l'espèce Stefania Sandrelli. S'en suivent bien des péripéties dramatiques, avec un final particulièrement horrible, que je ne vais pas vous divulgâcher, comme disent nos amis québécois. Je vous laisse l'occasion de découvrir ce film, en tout cas pour Alain Corneau, après France S.A., France Société Anonyme, son premier long-métrage réalisé, je pense, 2 ans auparavant, eh bien, c'était l'occasion d'un gros film. Le scénario était co-signé par Alain Corneau et Daniel Boulanger, un romancier, scénariste, un peu oublié ce jour, évidemment, donc vous l'avez compris. La musique, elle était signée de Georges Delerue. On en écoute un extrait. Police Python 357, 24 notes, second. Thank you. Un extrait de la puissante partition de Georges Delerue. J'en ai encore des frissons pour Police Python 357, un film d'Alain Corneau tourné en 1976. Georges Delerue fut un maître des cordes, c'est évident, mais il fut aussi un maître des chœurs. On en entend dans nombre de ses partitions. Et je trouve que la façon dont il utilise la voix humaine ici, de façon presque, comment dire, dissonante et tout à fait puissante. Et elle illustre bien le propos du film qui dépasse très largement le fait divers sordide et la petite vie de province. Orléans étant pour Alain Corneau, je le cite, hein, Orléanais, ne m'accablez pas, Orléans étant pour Alain Corneau la ville type de la grande bourgeoisie. Et bien évidemment, le propos est plus tragique que ça, avec des interprètes de la trempe d'Yves Montand ou de Simone Signoret, il ne pouvait en être autrement. Et je trouve que la musique restitue pleinement cette dimension tragique. C'est souvent son rôle d'apporter quelque chose d'autre au film, sinon ça n'a pas de sens si ce qu'on entend est la même chose que ce qu'on voit. En 1982, eh bien, on va retrouver Georges Delerue pour un film de Jacques Rouffio. Ça s'appelle « La passante du sans-souci ». On retrouve là encore dans les rôles principaux deux monstres sacrés du cinéma français, Romy Schneider et Michel Piccoli. L'histoire inspirée d'un roman de Joseph Kessel, eh bien, c'est celle d'une l'ascension des nazis à Berlin en 1933, avec une histoire tragique qui verra son dénouement presque 50 ans plus tard. L'occasion pour Romy Schneider, eh bien, de renouer au cinéma après une période qui avait été pour elle particulièrement tragique, puisque quelque temps avant le tournage de La Passante du Sans-Souci, elle perdait son fils dans des conditions absolument horrible, dont on se souviendra peut-être et que je vais bien me garder d'évoquer ici au micro. Et d'ailleurs, le film est dédié à David et à son père, puisqu'elle avait aussi perdu le père de son fils. Bref, une actrice qui aura connu bien des malheurs, comme l'on dit, mais une actrice qui sut sublimer en fait cette part tragique qu'elle a toujours eue depuis même Sissi, qui la fit connaître, la part tragique peut-être héritée de sa mère, qui elle-même s'était largement compromis avec le régime nazi. Le film donc de Jacques Rouffio, une production peut-être un peu pesante, mais ma foi plutôt bienvenue, et comme chaque fois où il y a Romy Schneider, eh bien, elle seule suffit pour que le film soit à la fois beauté, grâce et tragédie. C'est le cas aussi de la musique de Georges Delerue. On en écoute bien évidemment un petit extrait. La passante du sans-souci dans 24 notes secondes. Un extrait de la bande originale de La Passante du Sans Souci, un film de Jacques Rouffio tourné en 1982, une musique de Georges Delerue. On va se quitter très rapidement pour laisser place à la musique en écoutant carrément le Concerto de l'Adieu, composé par Georges Delerue, une de ses dernières musiques de film, pour un film de Pierre Schoendoerffer sorti en 1992. Le film il s'appelle Dien Bien Phu. Pour ceux qui connaissent un peu l'histoire de France, eh bien, c'est le récit de la dernière bataille de la guerre d'Indochine. Le 7 mai 1954, les soldats français se rendent et abandonnent donc l'Indochine. 10 000 soldats français seront capturés. Près des trois quarts mourront en captivité dans les mois qui suivent. Pierre Schoendoerffer était vraiment l'homme pour faire ce film, puisqu'il était là. Ce jour de mai 1954 en tant que caméraman du service cinématographique des armées. Dien Bien Phu, le concerto de l'adieu de Georges Delerue. Au revoir, à bientôt, see you.